France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le Niger n'est pas un hotspot, mais il y a ce mécanisme d'évacuation de la Libye qui est très particulier. Il y a des programmes de réinstallation en France ou dans l'Union Européenne, en Amérique du Nord également.
L'objectif principal, c'est de sauver des vies et de faciliter l'accès légal à ces personnes dans les pays de réinstallation pour qu'ils ne prennent pas de risques à travers la Méditerranée.
Aujourd'hui, on a 5 familles qui nous ont apporté une vingtaine d'enfants, mine de rien. Ça a sauvé nos écoles quand même.
De nouveaux naufrages cette semaine au large de la Libye nous rappellent à quel point est éprouvant et risqué le périple de ceux qui tentent de rejoindre l'Europe après avoir fui leur pays. Partagés entre des élans contradictoires, compassion et peur de l'invasion, les pays de l'Union européenne ont durci leur politique migratoire tout en assurant garantir le droit d'asile aux réfugiés. C'est ainsi que la France a adhéré à l'Emergency Transit Mechanism, un programme humanitaire exceptionnel permettant à des réfugiés évacués d'urgence de Libye et reconnus particulièrement vulnérables d'être pris en charge dès le Niger et réinstallés dans des pays sûrs. En septembre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé l'accueil de 10 000 réinstallés sur 2 ans. À ce jour, 8 400 personnes sont effectivement arrivées en France, envoyées dans des communes volontaires et accompagnées pendant 1 an par les opérateurs de l'État. Comment tout cela se passe-t-il concrètement? Quel est le profil des heureux élus et quelle réalité les attend? L'accompagnement correspond-il à leurs besoins? Et parviennent-ils à s'intégrer dans ces villes et villages de France? Réfugiés du Niger à la Dordogne, c'est un reportage signé Catherine Gilliardi. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons François Héran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migrations et Sociétés, également directeur de l'Institut Convergence Migration. Pouvez-vous nous en préciser succinctement les missions ?
C'est un des 10 instituts convergence qui existent en France dans toutes les disciplines et celui-là s'occupe de fédérer les efforts de recherche de 380 chercheurs. Ils restent membres de leurs organismes, de leurs unités de recherche. Il y a 120 structures différentes, mais ils travaillent à l'intérieur de départements qui sont organisés par cet institut convergence et ils s'organisent en projets. Et voilà. Donc l'idée, c'est de fédérer des efforts qui jusque-là existaient, si vous voulez, mais de façon extraordinairement dispersée.
Très bien. Bonjour Catherine Gilliardi.
Bonjour.
L'Institut Convergence Migration vous a invité sur le terrain aux côtés de ses chercheurs. Catherine, vous vous êtes d'abord rendue au Niger, pays devenu un partenaire privilégié de la politique migratoire de l'Union européenne.
Oui, si vous voulez, c'est un des rares pays stables de la région. Donc on est au Sahel, hein, cette bande désertique au sud du Sahara. Et donc ce pays, le Niger, vit avec une pression terroriste à ses frontières. Alors il s'y retrouve un peu dans cette présence étrangère, donc présence étrangère militaire, hein, politique. Et effectivement, aussi, ce Niger qu'on appelle la nouvelle frontière de l'Europe, ou que certains appellent la nouvelle frontière de l'Europe, a accepté de collaborer aux politiques migratoires de l'Union européenne. Donc sur le terrain, il y a les organisations internationales, elles sont là, elles sont visibles, elles gèrent les migrations. Elles sont très présentes. Donc il y a l'OIM, hein, l'Organisation Internationale des Migrations, qui est chargée de ce qu'on appelle les migrants et surtout de les retourner, hein, je mets les guillemets, j'emploie du vocabulaire spécifique, dans leur pays de façon volontaire. Les chercheurs mettent beaucoup de guillemets, mais en tout cas voilà sa mission. Et le HCR, donc, qui est en charge des réfugiés. Et au Niger, le HCR a mis en place donc un programme d'évacuation d'urgence de Libye, en tout cas il le gère du Niger, qui s'appelle donc ce programme, vous l'avez dit, ETM, je vais donner l'acronyme en anglais. Et pour accompagner ce programme, donc assez classique, hein, du HCR, qui est la réinstallation. On prend des réfugiés dans des camps, dans des pays qu'on estime moins sûrs, et on les met dans des pays plus sûrs, qui sont des pays européens et américains. Voilà.
On part donc tout de suite au Niger, à Niamey. Et pour nous guider dans les rues de la capitale, la géographe et anthropologue Florence Boyer, chargée de recherche à l'Institut de Recherche du Développement et spécialiste des migrations au Niger.
Les rues en sable de Niamey. Donc là, on est sur le plateau, au bord de la rue Maurice Delins, qui est le quartier résidentiel, administratif, très occupé par des locaux d'ONG, et qui est devenu, au cours des 10-15 dernières années, vraiment le quartier de prédilection et d'installation d'énormément d'ONG. Je vais tourner là. Donc là, on va arriver au guichet unique qui a été mis en place donc à la suite de l'arrivée des réfugiés urbains donc maliens à partir de 2012-2013 au moment du déclenchement du conflit malien. Et dans ce guichet unique donc sont logés un certain nombre d'ONG qui travaillent directement sur l'accueil et l'assistance aux réfugiés urbains, dont APBE par exemple, qui est une ONG nigérienne prestataire du HCR. Mais on retrouve également d'autres ONG comme Forum Réfugiés COSI, qui aussi est partenaire du HCR, mais qui travaille plus particulièrement dans le cadre du programme ITIEM. Donc là, on va arriver donc à proximité des bureaux de la délégation de l'Union européenne. L'Union européenne pour laquelle la position du Niger et le rôle du Niger a quand même énormément changé, évolué, en particulier depuis 2015 pour tout ce qui touche aux questions des migrations. Comme un espace, donc le Niger étant un espace de transit du point de vue européen, disons le Niger étant la dernière frontière de l'Europe, comme le disait l'officier de liaison migration de l'UE. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne finance et appuie l'État du Niger, en particulier pour tout ce qui relève du contrôle des frontières. De faire en sorte en fait que cet État du Niger ait un rôle de tampon en quelque sorte entre la Méditerranée et l'UE. Et juste ici sur la droite, les bureaux du HCR, donc les premiers bureaux du HCR qui sont installés au début des années 2010 et qui aujourd'hui sont les bureaux du programme ETM, Emergency Transit Mechanism, où sont faits en partie des auditions des personnes qui sont évacuées de Libye pour être réinstallées en Europe et en Amérique du Nord.
Dans le cadre de ce programme d'évacuation d'urgence, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés sélectionne dès les camps libyens, parmi les migrants qui ont tenté ou souhaitent traverser la Méditerranée, ceux qui ont le droit à la protection internationale et qui pourraient être réinstallés dans un pays occidental. Hommes, femmes et enfants seuls ou en famille sont évacués en avion vers le Niger qui sert de plateforme au programme ETM et où le HCR va pouvoir monter le dossier de réinstallation. Ce jour-là, devant les bureaux du HCR à Niamey, la capitale, des femmes attendent d'être reçues. Fatou Ndiaye est en charge du programme d'urgence pour le HCR.
Alors, c'est ce qui sont actuellement devant la porte du HCR. C'est des femmes qui sont évacuées de la Libye, donc qui étaient dans les centres de détention au niveau de la Libye, identifiées par le HCR. Et à travers le mécanisme d'urgence, ils sont arrivés au Niger. Donc là, on rentre vraiment dans le processus de l'ITM. Une fois au Niger, le HCR avec le gouvernement s'engage à faire ce qu'on appelle la détermination de statut de réfugié. Parce qu'il faut qu'on regarde qui est réfugié, qui ne l'est pas. Alors actuellement, ces femmes-là sont un peu frustrées de la lenteur du processus. Mais aussi, il y a des cas de rejet. Il y a malheureusement certaines qui ne remplissent pas les critères d'inclusion au statut de réfugié. On regarde cas par cas et on regarde la solution qui sera la plus appropriée pour la personne et bien sûr avec son consentement. Parce que c'est des gens qui ont pris beaucoup de risques pour arriver en Libye en ayant comme objectif d'aller en Europe.
Comment le HCR fait le profiling aussi en Libye?
Ça, c'est un point de départ très important. Parce qu'en Libye, on ne travaille pas seul. Il y a le HCR, il y a aussi l'OIM. Donc le HCR, comme vous le savez, ne s'occupe pas des migrants. Donc plus nous, c'est plus les personnes qui relèvent du mandat du HCR, c'est-à-dire les réfugiés, les demandeurs d'asile, etc. Maintenant, le profilage ou l'identification se fait malheureusement dans les centres de détention. On n'a pas la possibilité, par exemple, et une marge de manœuvre de faire un profilage à fond dans les centres de détention. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. On ne peut pas respecter la confidentialité, par exemple, dans les centres de détention. On n'a pas un espace de travail où le HCR peut prendre des heures pour faire ce travail de filtrage ou ce travail de profilage à fond. Mais on réussit quand même à pouvoir conduire des entretiens, à faire l'enregistrement des données, des biodata, les données personnelles, prendre des photos, etc. Parce que ça aide aussi pour au moins avec les informations qu'on a, par exemple le nom de la personne, le pays d'origine, parce que si quelqu'un se déclarent venir de l'Érythrée. On connaît les langues, c'est le tigrinya. Il y a un minimum de vérification qu'on arrive à faire dans les centres de détention avant l'évacuation vers le Niger. Donc, quand ils arrivent, on les reprend pour revérifier les données personnelles qui ont été déclarées en Libye avant l'évacuation ou bien pendant l'évacuation. Et en plus de ça, on prend les empreintes digitales. Et après cette étape de vérification des données personnelles, là, on commence l'étape de la détermination de statut de réfugié. Donc là, c'est des entretiens beaucoup plus poussés qui reprend tout le parcours depuis leur pays d'origine jusqu'en Libye. Ensuite, on essaie aussi de comprendre pourquoi la personne ne peut pas rentrer. Après cette étape-là, on commence la procédure de réinstallation vers un pays, que ce soit en France, au Canada, États-Unis, Suède, etc. Donc vraiment ce projet, bien sûr, l'objectif principal c'est de sauver des vies et de faciliter la solution durable qui est la réinstallation de ces réfugiés qui en ont besoin, de faciliter l'accès légal à ces personnes dans les pays de réinstallation pour qu'ils ne prennent pas de risques à travers la Méditerranée. Voilà.
Les évacués de Libye sont installés dans un camp que le HCR achève tout juste de construire dans les environs de la capitale nigérienne, le camp de Hamdalaï. C'est ici que ce jeune érythréen de 26 ans attend son départ pour la France avec 32 autres personnes.
Je faisais mon service militaire et je voulais étudier. Mais mon gouvernement ne m'a pas donné la permission de le faire. Je n'ai pas accepté de rester un militaire et donc j'ai décidé de partir. Je suis parti il y a 2 ans, j'avais 24 ans. Je n'étais pas à Tripoli comme certaines personnes ici. J'étais dans un camp de détention à Misrata. On était 110 personnes originaires d'Afrique de l'Est. Et après 6 mois de procédure, le HCR nous a évacués vers le Niger. Un délégué libyen du HCR nous a embarqués dans 3 bus. On est allé à Tripoli et on a pris l'avion.
Qu'avez-vous ressenti au moment de l'évacuation ?
J'avais l'impression d'être né une deuxième fois. Je ne pensais pas que je survivrais. J'étais si heureux. Je me sentais libre. J'étais très heureux quand j'ai appris que j'allais être évacué vers le Niger. J'étais en contact avec des gens qui étaient déjà arrivés ici. Et certains d'entre eux ont été réinstallés. J'espérais qu'il m'arriverait la même chose qu'à eux. Cela a été un long processus d'une année. Il fallait attendre avec toutes ces procédures. Mais il y a des gens qui sont là depuis plus d'un an et qui ne savent pas encore s'ils partiront, car la procédure est toujours en cours. Je suis reconnaissant pour ce qui m'arrive. Je connais ma date de départ pour la France. Je suis serein. Je suis très heureux et je compte les jours jusqu'à mon départ.
Thank you.
Est-ce que vous vouliez aller particulièrement en France ? Est-ce que vous avez une idée de la France ?
La France est un grand pays et je connais des gens là-bas avec qui je suis en contact. Je sais que je vais prendre des cours de français pour 3-4 mois et que dans 10 ans, je pourrai devenir citoyen.
Dans quelle ville allez-vous aller en France ?
Ils ne me l'ont pas dit. Je voudrais d'abord apprendre le français, puis ajouter l'anglais. J'aimerais étudier de l'informatique et comment travailler dans la sidérurgie. Mes amis qui vivent m'ont dit que la France était un bon pays et que je pourrais trouver du travail facilement. Il faut juste apprendre la langue.
Merci. S'il vous plaît. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci.
Merci.
what if I can only settle for much? In space with you,
la France s'est engagée à réinstaller sur son sol 3000 subsahariens d'ici le mois de décembre. Ils sont pris en charge par des associations mandatées par l'État, placés quelques mois dans un centre médico-social pour recevoir des soins et, nous dit l'administration, s'accoutumer à la culture occidentale, puis ils sont installés dans un logement pérenne. Les villes qui les accueillent sont volontaires. C'est le cas des petites communes de Dordogne où nous nous sommes rendus pour rencontrer des réfugiés et leurs accompagnateurs, associations mandatées, salariés des petites communes rurales et surtout bénévoles, sur lesquels l'ensemble du dispositif semble beaucoup reposer. Chez Mohamed, sa femme et leur bébé, installés depuis le mois de mai dans une petite ville de Dordogne, nous sommes accompagnés par Sylvie, une intervenante sociale de France Terre d'Asile.
Ok. Ils sont bien, ils sont très très bien. Les bébés, ils dorment.
C'est moi qui suis venue je suis venue les chercher à Bordeaux et de Bordeaux pour les acheminer à Clairvivre. Voilà. Donc j'ai pu faire leur connaissance à ce moment-là. Ils sont mariés. Ils sont mariés et un enfant. Voilà, un petit garçon, né en juin.
En France.
Oui, français. Il est né à Périgueux.
Oui, Périgueux.
I come Niger, from the Niger.
Mm-hmm.
From Niamey. Niamey, oui. Before Niamey, Libya. Before Libya, Sudan. Before Sudan, Yemen.
Yemen. Yemen.
Sudan, Libya, Niger, France. Mm-hmm. After France.
Comment France Terre d'Asile vient vous aider? How do they help?
French lesson.
On prend des cours de français une fois par semaine, le vendredi. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle Camille ou Sylvie. Parfois, elles viennent.
Alors voilà, donc moi, pour mon cas, je me suis déplacée, j'ai été voir à la Croix-Rouge française qui ont fait don de meubles pour une famille. Donc, elle va avoir des dons de meubles et de vêtements. Alors, pour moi, la vulnérabilité pour ces personnes, c'est le frein de la langue déjà, les problèmes de santé, la non-connaissance du pays pour lequel ils s'installent. Donc, ils ont tout à apprendre, c'est une deuxième vie. Lorsqu'ils arrivent en France, ils peuvent arriver effectivement avec des problématiques de santé. C'est pour ça qu'il y a une prise en charge médicale pour des maladies qui, en France, sont en train de s'éteindre, c'est-à-dire la tuberculose, l'hépatite. Pour cela, il y a Périgueux qui s'occupe de ces deux types de maladies. Et ils arrivent également avec des problèmes dentaires, avec des problèmes d'otite. Souvent, ils ont le tympan percé. Psychologiquement, il y a des personnes, oui, effectivement, j'ai vu une famille syrienne où le silence faisait peur. Donc, si on faisait tomber un stylo, il se retournait, parce que tellement habitué au bruit de bombes qu'arriver en France, mon Dieu, que c'est calme. Donc, il y a un suivi psychiatrique, il y a un suivi physique. Donc, on contacte des psychiatres ou psychologues et médecins et spécialistes. Et généralement, après, lors de leur installation dans un logement pérenne, là, on va dire qu'ils sont bien mieux, bien, bien mieux. Ils ont le temps de prendre leurs repères, et puis ils sont chez eux, quoi. Ils ont leur vie de famille. Ils ont un médecin, ils ont été soignés. Ils savent qu'ils sont accompagnés, oui, moralement, physiquement.
Et après, donc, quand vous arrêtez le suivi, ça peut continuer éventuellement ce suivi
Alors, le suivi auprès des FTDA, c'est un accompagnement de 12 mois, Par contre, il y a un relais que l'on fait auprès de l'assistante sociale de la commune. Donc, il y a la PMI pour les petits-enfants, il y a le médecin référent, les dentistes, ils sont vraiment très très bien accompagnés. Et puis, de toute façon, il y a les institutions telles que la mairie, les hôpitaux, qui les connaissent très bien. L'importance aujourd'hui avec ces gens, ces familles qui sont installées à l'extérieur, en logement pérenne, c'est de venir au moins une fois par semaine pour lire leur courrier, leur expliquer. Disons qu'avec on va mettre, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est la CAF.
Hello.
Voilà, la CAF. Hello. Là, toi, tu peux téléphoner à ici. Le numéro là.
For you.
For you.
This for.
Là, numéro de téléphone.
Oui.
Voilà. Et pour une dame, woman, come here. Comme hier, pour ménage, pour ça, tu vois, c'est... Ah, mais toi, la CAF,
oui.
Peut te faire venir une dame, voilà, pour ménage. Voilà, c'est tout. C'est compliqué à expliquer. Ah, mais ça, c'est un frein. La langue française, c'est vraiment un frein.
C'est comment vous faites pour faire ce lien quand même?
On va réexpliquer à plusieurs reprises et à force. Et moi, de retour à Périgueux, je vais demander à l'interprète qu'il puisse lui téléphoner et lui expliquer. Voilà.
Ça prend du temps, mais ça se passe.
Ah, ça se fera quand même, oui, tout à fait.
Nous allons vous mettre en relation avec un interprète. J'espère que ça
n'a
pas duré 10 minutes.
C'est par téléphone, Livia, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi, je téléphone pour la mairie de Nontron pour avoir un interprète qui parle syrien, s'il vous plaît.
Votre code ?
Alors, 10.
Bien sûr. Et vous avez dit votre nom, c'est ?
Alors, Brigitte.
Votre fonction ?
Je suis bénévole.
Alors, et donc, en arabe de Syrie ou une autre langue?
De Syrie, s'il vous plaît, oui.
D'accord. Je vous laisse patienter.
Merci.
Oui,
allô?
Oui, bonjour. Vous êtes l'interprète? Est-ce que vous pourriez nous aider?
À Nontron, 3000 habitants, en Dordogne, les bénévoles ont pris le relais des associations mandatées par l'État. L'accompagnement d'un an a pris fin pour la famille syrienne, arrivée en 2016, comme pour les quatre autres familles syriennes, soudanaises et centrafricaines, installées dans la commune rurale, où la douceur de vivre et les bonnes volontés ne compensent pas toujours l'isolement.
Il a dit que depuis qu'on était au Liban, ils ont nous demandé est-ce qu'on préfère vivre dans une ville ou à la campagne. Et il dit que moi, je choisis la campagne parce que moi, je viens de la campagne. Et depuis qu'on habite là, tout se passe très bien. Les enfants sont très gentils avec nous. On est bien intégrés et on est très contents là-bas.
Bonjour.
Vous êtes
Erwan Carabin.
Erwan Carabin, ah. Ok.
Et les bandes de folie viennent d'arriver, donc tout le monde est arrivé en même temps, c'est très bien. On s'installe ici parce que...
Pour l'adjoint au maire et toute l'équipe municipale, Nontron est une terre de refuge. Une plaque commémore fièrement l'accueil des Juifs lorrains et alsaciens pendant la guerre. Alors, quand l'association Aurore, prestataire locale de l'État, leur a proposé de recevoir une famille syrienne, ils n'ont pas hésité.
Donc cette association avait déjà dans ses cartons, si je peux dire, de nombreuses familles de réfugiés et essayait de les disperser sur notre territoire, Périgord vert, Périgord noir, etc. La mairie a été en contact direct avec cette association et on a commencé à bâtir toute une interface pour pouvoir accepter ces familles. Donc rencontre avec une structure au territoire qui s'appelle Tantogne Habitat qui fournit les logements. Après un montage pour essayer d'associer à notre démarche des bénévoles, d'autres associations si c'était possible. Donc on a contacté des bénévoles en faisant une réunion à la mairie où nous avions eu une quarantaine de personnes à peu près, qui ont pris en charge l'accompagnement de ces familles en termes de soutien scolaire, fourniture de matériel et pour continuer donc cette structuration d'accueil. Aujourd'hui on a 5 familles. Qui nous ont rapporté une vingtaine d'enfants, mine de rien. Ce qui, pour le plus, si je peux dire, ça a sauvé nos écoles quand même, faut pas croire. des enfants qui sont superbes parce qu'ils ont appris la langue française à une vitesse éclair. Et ça, faut le souligner quand même. Hein. C'est moi-même, je suis assez suffoqué de leur apprentissage. Voilà. Donc maintenant, je préfère laisser la main aux bénévoles parce que eux se sont certainement plus mouillés que moi. Voilà.
Donc en fait, il y a eu une réunion à la mairie. C'était en
Brigitte, bénévole.
J'étais en retraite. J'étais instite avant, donc voilà, ça me tentait bien de faire de l'accompagnement scolaire. J'ai pris contact avec l'association Aurore et je suis allée dans les familles directement pour faire connaissance. Bon, c'était un peu bizarre la première fois parce que l'association Aurore m'a fait faux bond. Je me suis retrouvée toute seule avec les familles qui parlaient arabe. Moi, je ne parlais pas arabe. Ils parlaient, moi, je parlais français, mais eux ne comprenaient rien. Donc, c'était un peu bizarre. Voilà, bon, puis comme je connaissais les enseignants des enfants, j'ai pris contact pour savoir sur quoi il fallait travailler, dans quelle classe étaient les enfants, etc. Donc, j'ai commencé à y aller régulièrement pour donner un petit coup de main sur le plan scolaire le soir. Voilà, et puis... Donc, 2 ans après, il y a 3 familles qui sont arrivées. Donc, comme j'étais en contact avec le collège, lycée, la CPE m'a dit « Est-ce que vous ne pouvez pas donner un coup de main ? Il y a des Soudanais qui sont arrivés, il y a une dame de République centrafricaine, donc il y a beaucoup d'enfants. Bon, là, je ne pouvais plus toute seule, ce n'est pas possible. » Et donc, quand les Soudanais sont arrivés, bon, ça fait vraiment beaucoup. Et en plus, il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous médicaux qui se sont greffés. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, pas dans l'année de leur arrivée, mais l'année qui a suivi, il y a eu énormément de problèmes de santé. Alors, je pense que c'est le contre-coup de l'installation. Et les personnes n'ayant pas de voiture, il fallait accompagner. Donc, c'était Limoges, Angoulême, Périgueux. Donc, j'ai fait un appel. Alors, mon frère qui était en retraite avait commencé à m'aider déjà. Et j'ai fait un appel à des bénévoles, donc on s'est retrouvés dans une salle que la mairie nous a prêtée. On devait être quoi, une quinzaine. Et puis en plus, il y a une dame qui avait proposé de faire des cours de français. Donc il fallait garder les enfants des familles, les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Donc il fallait du monde. Donc ma belle-sœur qui venait de prendre sa retraite est venue, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Voilà. Donc la mairie a restauré même 2 salles pour ses cours de français, parce que en fait le Greta est à Périgueux, donc c'était trop compliqué d'aller à Périgueux, surtout sans voiture. Il fallait prendre le car à 6h30, arrivé là-bas il fallait changer de bus, c'était encore à 200 mètres après l'arrêt, donc comme Ibrahim avait un problème de pied, il a reçu un éclat d'obus dans le pied, donc il ne peut pas marcher comme il faut, donc c'était pas possible quoi, enfin, il fallait qu'il y aille 2 fois par semaine. Voilà. Donc, bon, on a dit que ce n'est pas jouable. Bon, il y a des gros, gros problèmes de santé. Et les Soudanais, bah, pareil. Ils ont tous attrapé la varicelle. C'est pas fini. Oui, ça tourne. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Alors, il y a une petite qui est handicapée dans une famille soudanaise. Alors, j'ai monté le dossier MDPH pour qu'elle puisse être scolarisée. Elle a 8 ans et j'ai démarré le dossier au mois de décembre. Elle est rentrée à l'école au mois de mars, avril.
Il faut souligner le temps de réaction de nos bénévoles est certainement meilleur que le temps de réaction de nos politiques, hein, au niveau des structures de l'État. Je tenais à le souligner.
Oui, bon, je dois quand même avouer une chose, c'est que les associations ont été très, très, très défaillantes. Ça s'est très bien passé au début, et puis un peu à la fois, ben, on les voyait plus.
C'est vrai qu'au niveau géographique, on est très éloigné.
Marie-Noël, bénévole.
Donc forcément, pour elle, ça faisait beaucoup de distance. Si elle avait des familles à Périgueux, à Nontron, Thiviers, Jumillac, il y a à chaque fois 50 km entre chaque ville. Donc effectivement, c'est énorme.
Merci à Brigitte et à Christophe beaucoup, parce que Brigitte et Christophe tout le temps avec nous et parlent avec nous pour les rendez-vous, pour tout ça. Merci encore.
Vous, concrètement, ça vous prend combien de temps sur votre journée, sur votre semaine sur...
Alors, moi, j'interviens sur le plan du soutien scolaire 2 soirs par semaine, donc de 17h à 20h, quelquefois plus. Et puis, bon, je fais des conduites pour des rendez-vous médicaux de temps en temps. Bon, puis le dossier MDPH, les dossiers MDPH, je m'en prie beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, bon.
Et mentalement
Oui,
J'ai fait un petit clash au mois de, je sais plus quand c'était, au mois de mai. Oui, c'était, je pense qu'il y avait un trop plein quand même. Mentalement, c'était lourd, très très lourd, oui.
De par leur histoire, votre responsabilité, de quoi?
Oui, enfin, faut gérer l'entente entre les bénévoles. Quelquefois, c'est pas toujours simple. Des problèmes de santé qui sont, oui, je trouve lourd à porter quand même. Ouais. Puis leur histoire, oui. Ah, ouais.
C'est lourd quand même. Hmm, leur histoire. Hmm, je pense que. Puis les rendez-vous médicaux, bon, on rentre quand même dans l'intimité des gens quelquefois. Hein. C'est pas facile non plus. Voilà. Sans pouvoir répondre forcément à leur souffrance. Voilà.
Et comment vous vous êtes préparée à ça?
Enfin, moi, je travaillais dans le social, donc j'étais plus ou moins préparée. Entre guillemets, j'avais un peu l'habitude déjà. Mais bon, voilà, je ne pense pas qu'on puisse s'habituer à une souffrance comme ça, hein, aussi bien physique que morale. Voilà.
Non, mais vous avez eu un accompagnement?
Non. Moi? Non. Non, non. Là, actuellement, non, non, on n'a pas d'accompagnement. C'est entre nous. On se soutient entre nous. Voilà.
Et vous, vous avez eu un accompagnement?
Ah non, non, non.
Des associations, justement?
Ah non.
C'est vrai que je vais être un peu sévère, mais le non-accompagnement de ces associations nous a particulièrement choqués. Oui. Je me souviens que Brigitte, on les attendait, on avait réunion une fois avec eux, ils ne sont même pas venus. Et ils n'ont même pas téléphoné pour s'excuser. Donc nous, on avait aussi demandé aux réfugiés qui viennent. On s'est trouvé un petit peu délaissé, sans moyen de faire quoi que ce soit, parce que c'est eux qui ont les instruments dans les mains, nous on n'a rien. Donc ensuite, ben, si on nous demande dans les choix qu'il faut faire dans l'avenir, est-ce qu'on recommence, on va se poser des questions, hein. Donc, parce qu'on ne le fera plus tout seul. Donc l'équipe de bénévoles, elle est là, elle a son, je veux dire, son travail, parce que c'est quand même un engagement. Ça fait un support de plusieurs personnes, c'est pas négligeable. Et déjà, je pense qu'elles sont foules, hein. Elles ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'elles sont en train de faire. Hein. Voilà, moi je ne solliciterai pas plus, je n'ai pas le droit de toute façon. Donc quelque part, ça veut dire que dans notre ruralité, on a encore de la place, et puis c'est important qu'on accueille ces familles. Ben, on ne pourra pas le faire parce qu'on ne donne pas les moyens, à travers ces associations qui existent, et dont c'est le rôle, on ne donne pas les moyens. Je veux dire que pour nous, dans un village, dans une ville de 3500 habitants, 5 familles, c'est le maximum qu'on puisse avoir avec les bénévoles qu'on a.
11h30. Est-ce que tu as partagé...
Au Niger, dans les bureaux du HCR, Fatou Ndiaye rappelle que l'efficacité du programme d'évacuation des camps de Libye dépend de tous les acteurs, d'accord, jusqu'au bout de la chaîne.
Les municipalités aussi ont leur rôle à jouer en termes d'identification de logements, en termes d'accompagnement et de réception. Mais dans tout ça, ça prend du temps. C'est une machine, hein? C'est une machine. Il y a un problème de fluidité par rapport à nos ambitions. Parce que, encore une fois, si ce mécanisme est un outil pour sauver des vies, en tant qu'humanitaire, ça pèse lourd sur nous. Si on sait qu'un jour de plus, c'est un jour de plus pour l'autre qui est dans le centre de détention et qui fait face à la torture ou en tout cas à violation de ses droits humains. Mais si on regarde le programme classique de réinstallation, c'est vrai que c'est très rapide, hein. Parce que normalement, dans un programme classique de réinstallation, un dossier peut prendre 2 ans avant d'arriver dans le pays de réinstallation. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas améliorer. On doit aller plus vite par rapport aux besoins et par rapport à la situation en Libye. Il faut regarder tout le processus et voir là où on peut agir. Aussi bien au niveau du HCR, comment faire pour travailler plus vite, de manière plus efficace, avoir plus de soumission, mais aussi, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'évacués pour faire plus de cas? Est-ce que les pays de réinstallation qui ont déjà accepté le dossier peuvent aller plus vite avec les municipalités pour que les gens partent plus vite? Donc c'est vraiment tout le processus qu'il faut regarder.
Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du laboratoire de l'asile. Le Niger n'est pas un hotspot.
La chercheuse Florence Boyer.
Mais voilà, il y a ce mécanisme d'évacuation de la Libye qui est très particulier. Il y a les programmes de réinstallation classiques du HCR en France ou dans l'Union européenne, en Amérique du Nord également. Enfin, c'est toujours pareil, l'intérêt des acteurs, il est différent. Pour le HCR, il y a une logique humanitaire à évacuer les personnes des prisons libyennes, même si, voilà, on peut, au regard du nombre de personnes qui sont actuellement dans les prisons en Libye, voilà, on peut dire que c'est pas grand-chose que ce qu'évacuent les personnes qui parviennent à être évacuées ici au Niger. Bon, n'empêche que voilà, ça existe et il y a un principe humanitaire qui joue à un moment donné. D'un autre côté, l'intérêt de l'Union européenne, là, on peut le voir de manière très cynique, c'est la réinstallation et l'ouverture de place à la réinstallation, c'est le vernis humanitaire, politiquement correct, dans un contexte de politique migratoire qui est extrêmement dur, avec certains pays qui vont ouvrir, d'autres pays qui vont pas ouvrir des places, et puis voilà, des enjeux nationaux autour de la réinstallation qui sont très très particuliers également.
Réfugiée du Niger à la Dordogne, un reportage de Catherine Gilliardi avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Sociologue, démographe et anthropologue François Héran, directeur de l'Institut Convergence Migration, est l'invité de Grand Reportage. Alors vous venez d'entendre la chercheuse Florence Boyer. Est-ce que vous aussi, François Héran, vous qualifieriez la participation de la France à ce dispositif de vernis humanitaire ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que le chercheur n'est pas là pour jouer les inspecteurs des travaux finis et distribuer des bons points.
C'est un propos de chercheuse.
Oui, mais écoutez, en tout cas, je vous dis quelle est ma conception. Je pense que notre rôle, c'est d'abord essayer de replacer un petit peu les proportions du phénomène. Vous avez actuellement au Niger 424 000 personnes qui sont déplacées de force, qui ont fui les conflits, les persécutions. Et sur ce nombre, il y en a 200 000 à peu près, j'ai dit, qui ont obtenu un statut de réfugié reconnu par le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Et sur ces 200 000, combien ont finalement sont passés par ce programme Emergency Transit Mechanism, ce mécanisme d'évacuation d'urgence depuis le pays de transit qu'est la Libye? Eh bien, c'est de l'ordre de 1400, c'est 0,6%. Donc la sélection dont on parle, la sélection des plus vulnérables, sélection notamment des personnes dont on peut démontrer qu'elles ont été torturées, par exemple, qu'elles n'ont aucune perspective d'intégration sur place au Niger, qu'elles n'ont aucun espoir de retour, cette sélection est extrêmement drastique, c'est même pas 1%. Et donc il faut déjà voir ça. Alors quand on regarde les programmes de réinstallation à l'échelle un petit peu mondiale, pendant longtemps la France était tout à fait absente de ces programmes. Elle est encore absente de ces programmes dans le sens que quand vous regardez les statistiques qui sont très très bien faites du HCR, il y a quelques pays dans le monde qui ont réellement intégré dans leur budget, alloué un budget qui est régulièrement voté par le Parlement avec des procédures, des personnes qui est directement consacré aux réinstallations. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, et puis...
Alors les États-Unis qui ont changé...
Alors oui, justement, mais avant d'évoquer le tournant de Trump, il faut expliquer que d'autres pays se sont ajoutés à la liste, mais comme dit le langage onusien, dans des programmes ad hoc, des programmes ponctuels, des programmes qu'il faut refaire à chaque fois, parce que tout ça, c'est sur la base du volontariat des pays, donc le HCR et l'IOM doivent en quelque sorte supplier les pays qui n'ont pas déjà inscrit de façon stable la réinstallation de leur programme de bien vouloir adhérer à un programme ad hoc, etc. Et donc, on est exactement là, dans ce cas-là. Si ça s'appelle mécanisme et pas procédure, c'est parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une convention internationale. On est dans quelque chose d'unique, de ponctuel, et il y a un peu l'idée, c'est pour faire face à une situation d'urgence qu'il faut faire ça, mais on ne va pas, en quelque sorte, installer la réinstallation dans la durée, si j'ose dire.
Donc on est bien dans des chiffres dérisoires, et avec une notion de vulnérabilité qui peut poser question aussi, puisque ceux qui vont être...
Alors avant, si vous voulez bien, avant d'évoquer les critères de sélection de la vulnérabilité, qui sont effectivement compliqués, parce qu'il y a tellement de gens vulnérables dans cette affaire que choisir les plus vulnérables des plus vulnérables, identifier les degrés de sévérité, c'est évidemment très difficile. Mais vous avez mentionné, vous avez raison, le fait que avec Trump, la donne a été complètement changée, puisque les États-Unis étaient de loin le pays qui a accepté le plus de réinstaller. Il y en avait 80 000 à 100 000 par an, à peu près, jusqu'en 2016. Et puis, il arrive et font ce qu'ils décident de facto, c'est de diviser par 4, voire par 5, le nombre des réinstallés. Il faut voir que le Canada, avec peut-être 20 000 réinstallés par an, vu sa petite taille, c'est 33, 35, 36 millions d'habitants, quelque chose comme ça, fait un effort considérable. vulnérables. Et parmi les pays qui ont des programmes ad hoc qui se renouvellent assez régulièrement, mais qu'il faut rediscuter à chaque fois, la Suède accueille finalement 5000 personnes par an, ce qui est à peu près l'engagement du président Macron pour les deux années, puisque le président Macron a dit qu'il fallait jusqu'à la fin 2019 arriver à 10 000 personnes au total, donc sur deux ans, 5 000 par an. C'est le même chiffre que la Suède, mais la Suède, c'est 7 fois moins d'habitants que la France. Donc l'effort suédois est 7 fois plus important que le nôtre, voyez. Et la Direction générale des étrangers de France, au milieu du mois d'août, a publié un communiqué assez triomphal en disant « Écoutez, nous sommes tout prêts de remplir les engagements du président Macron. Nous sommes actuellement à 8400 réinstallés en France sur les 10 000 annoncés. Donc, on va y arriver, ce qui est très bien. Enfin, je veux dire, il y a un effort considérable des administrations pour faire ça. Mais on vient de le voir, ils sont complètement sous-dimensionnés pour cet effort. Et en réalité, alors le communiqué dit « Vous voyez, nous sommes juste derrière les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne. » Non, on est derrière bien d'autres pays quand on fait l'effort qui est vraiment constant, qui est absolument fondamental de rapporter tout ça à la population de chaque pays. Vu notre population, notre effort est vraiment très très faible. Alors c'est très bien de l'accomplir, mais je crois qu'il est vraiment important de rétablir le sens des proportions.
Alors même si peu de réfugiés sont réinstallés en France, on peut quand même saluer l'effort et la bonne volonté de tous les acteurs qu'on a pu entendre, parce que c'est quand même loin d'être simple. On entend la barrière de la langue, la fragilité physique et psychologique des personnes qui arrivent, le décalage culturel qui n'est pas négligeable. Donc les réfugiés n'ont pas toujours, Catherine, choisi le pays d'accueil, finalement.
Jamais. Ah non, ils ne choisissent pas. Ils ne choisissent pas. C'est le HCR qui c'est vrai, est central dans ce dispositif, qui se bat au niveau du Parlement européen aussi, au niveau énormément plaidoyer, qui est en train de négocier d'ailleurs avec le Rwanda, justement pour ce plan d'évacuation de Libye, pour rajouter un pays qui voudrait bien servir de transit, parce que le Niger ne veut pas plus de 1500 personnes sur son territoire, etc. Donc effectivement, ils ne choisissent pas. Alors on entend dans le cas du Syrien qu'il a choisi la campagne. Voilà. La ville. Mais c'est exceptionnel parce que au Niger, ils ne leur demandent pas le pays où ils veulent aller et ils ne leur demandent pas le HCR s'ils veulent être à la campagne ou à la ville. Ça, c'est certain.
Ça, c'est propre à tous les programmes de réinstallation, c'est ça. Il n'y a pas de libre choix du pays d'accueil. C'est le HCR qui identifie les personnes, identifie le statut potentiel et qui désigne le pays et les gens doivent accepter le choix qui leur est imposé. Mais ça, c'est classique.
Et on fait confiance plutôt au HCR.
Il faut bien comprendre que la réinstallation, c'est une alternative à la forme normale, ordinaire, qui devrait être le dépôt de la demande d'asile dans le pays où on se présente.
Là, en fait, ils gagnent du temps par rapport à d'autres et ils évitent évidemment un périple très risqué par rapport à ceux qui vont aller jusqu'à traverser la mer Méditerranée.
Ah bah, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui sont dans les camps libyens.
Ouais. Oui, enfin, Catherine a raison. C'est le grand avantage de cette procédure, c'est qu'elle peut effectivement faciliter les choses, mais en même temps, évidemment, c'est en amont que se pose le problème. C'est dans la délivrance des visas qui est extraordinairement restrictive et qui fait que finalement les gens sont acculés à soit évidemment ils patientent, ils subissent dans les pays de transit tout ce que l'on a dit sur les camps de rétention libyens par exemple, soit ils, au péril de leur vie, ils tentent la traversée du désert et de la mer. Et donc la réinstallation par rapport à la demande d'asile qui doit être la procédure ordinaire, par rapport à l'aventure risqué par rapport au fait de végéter dans un pays de transit, évidemment, offre une solution. Mais on voit bien que c'est une solution qui est extrêmement minime, minoritaire, et c'est une solution pour laquelle, finalement, on n'est pas préparé. Tout ceci est complètement sous-dimensionné et non anticipé. C'est ça qui est important. Quand vous interrogez les administrations là-dessus, vous leur dites, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper tout ça ? L'HCR avait déjà lancé des alertes depuis des années, et ils ont une quantification très très bien faite du décalage qui existe entre les besoins et les moyens, n'est-ce pas, qu'ils ont reçus. Et bien, la réponse que vous donnent les administrations françaises, se dire, c'est impossible de dire à Bercy, dans un an, il y aura tant de gens qui viendront, il faut écouter les appels du HCR, donnez-nous les moyens correspondants. Donc, en fait, c'est Bercy qui fait la politique migratoire de la France.
Alors, Catherine Ghilliardi, combien coûte cet accompagnement spécifique là, que vous nous avez présenté et qui paye ?
Je ne sais pas combien il coûte, mais en tout cas, il y a une enveloppe de 10 000 euros par réinstallé. Et la France, effectivement, ne vote pas du tout de budget propre au budget français. Ce sont des fonds européens. C'est le FAMI qui verse 10 000 euros par réfugié. Ça comprend le déplacement de l'OFPRA dans le pays. Donc, ça peut être au Liban, effectivement, dans les camps du HCR. Ça peut être au Niger, comme on l'a entendu, dans les camps du HCR. Et puis, l'avion, affrété par l'OIM. Et donc, il reste une enveloppe entre 4 à 6 000 euros pour un an, puisque donc l'accompagnement des prestataires, des opérateurs de l'État est d'un an pour ces réfugiés, effectivement, dans les villages. Donc, ça paraît dérisoire. Ceci dit, c'est une enveloppe que ces réfugiés ont. Les réfugiés qui, effectivement, sont demandeurs d'asile en France et obtiennent le refuge n'ont rien du tout. Voilà.
Voilà, donc ils sont privilégiés par rapport à d'autres. Mais donc, au bout d'un an, tout s'arrête. Ils basculent dans le droit commun. Et on peut se demander si à ce moment-là, l'intégration est réellement préparée. François Héran, vous, comment vous jugez ce dispositif ?
C'est vrai que ça manque un peu d'esprit de suite, hein, et il faudrait effectivement une intégration plus forte. Je voudrais vraiment dire que je ne blâme pas les administrations, parce que les administrations que nous connaissons, que ce soit la DIAL, la direction de l'habitat, la DGEF, etc., font un travail tout à fait remarquable. Ils essaient de mobiliser les associations. Il y a un très grand nombre d'associations mobilisées, mais qui elles-mêmes manquent de moyens et sont peu subventionnées. Donc, je dirais, et puis on a vu ce que font les municipalités, les locaux. Donc, il y a des efforts considérables qui sont fournis, mais c'est la conception générale, c'est l'anticipation générale de la question qui est vraiment très défaillante.
Vous dites que c'est un problème de conception, parce qu'on peut aussi raisonner autrement et dire que c'est quand même particulièrement compliqué d'accueillir des gens avec ces problématiques, donc il n'est peut-être pas raisonnable d'en accueillir plus.
Écoutez, nous sommes un des pays d'Europe qui accueille le moins de demandeurs d'asile. Enfin, il faut quand même rétablir les choses. Alors, quand on rapporte, quand on prend la réinstallation, la demande d'asile classique, qu'on prend l'ensemble de la migration de refuge, et qu'on rapporte ça à la population de chaque pays, mais nous sommes au 16e ou 17e rang en Europe.
Alors, comment
font les
autres ?
Nous ne sommes pas au 2e ou au 3e.
Qui fait bien ?
Eh bien, d'abord, il y a un certain nombre d'autres qui s'organisent, qui anticipent, qui inscrivent ça dans des budgets permanents. L'Allemagne, elle, a un système qui est assez particulier, c'est qu'elle a des associations caritatives qui sont extrêmement puissantes, mais qui ont des hôpitaux, des centres pour handicapés, des écoles, etc. Ce que leur équivalent, le Secours catholique, par exemple, le France Terre d'Asile, etc., n'ont pas, ou très peu. Il y a, dans le système concordataire allemand, une formidable dotation des associations humanitaires. C'est-à-dire que la force de frappe humanitaire de l'Allemagne est très supérieure à la force de frappe que nous avons chez nous, en partie parce que nous sommes un pays très laïque et que l'État subventionne très peu les organisations religieuses. Enfin, ça fait partie aussi de ce qu'est la République. On a l'idée que c'est à l'État de s'en occuper et l'État lui-même se défausse sur les bénévoles. Donc, dans ce système, finalement, peu de choses se font par rapport à d'autres pays. Et puis, il y a des pays qui ont une tradition bien établie, comme la Suède, même si ça n'est pas facile, hein, je ne dis pas que ce soit... Voilà. Et puis, d'autres pays qui font moins bien que nous. Alors, la Grande-Bretagne est encore plus fermée que nous. Elle est assez ouverte par rapport à la réinstallation, mais elle est très très peu ouverte par rapport à la demande d'asile, deux fois moins que nous. Donc il y a un peu, les pays se spécialisent un peu dans telle ou telle voie d'accueil de la migration de refuge.
Catherine Ghilliardi ?
Oui, j'ai une question à François Héran. À Nontron, le maire a clairement dit, nous a clairement dit, la chercheuse et moi, qu'il ne recevrait plus de familles de réfugiés. C'est terminé, il n'a plus de place, il ne peut plus. Donc, on a entendu l'adjoint au maire qui dit que l'accompagnement a été assez faible de la part des associations prestataires qui font ce qu'elles peuvent, effectivement. Pas d'aide à la recherche d'emploi, il n'y a plus de cours de français à Nontron parce qu'ils n'ont pas les moyens et la bénévole qui les donnait à trouver du travail. Donc, ma question, c'est comment est-ce que le gouvernement ou l'État français, puisque ça comptait sous François Hollande, gère son rapport avec les villes ? Parce que les villes, elles sont volontaires.
Il y a, si vous voulez, c'est assez frappant de voir que c'est un très très vieux problème. Au 19e siècle déjà, la France était un pays qui accueillait un nombre important de réfugiés qui leur versaient des subsides. C'était les réfugiés polonais, piémontais, etc. Enfin, nous accueillons une bonne partie des réfugiés politiques d'Europe. Et déjà, se posait la question de savoir, est-ce qu'on les concentre dans les villes où on peut finalement les soutenir, verser des subsides et en même temps les contrôler, ou, mais à ce moment-là, ils sont très remuants, 200 Polonais dans une caserne à Rouen, c'est quand même compliqué à gérer, c'est ce qu'on, je prends un exemple réel hein, de l'époque, ou est-ce qu'au contraire, on va les diluer dans les campagnes avec l'espoir que ça pourra pallier le manque de main-d'œuvre agricole, c'était une idée qui circulait, et puis qu'ils pourront davantage s'intégrer dans un milieu plus dilué. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, une partie d'entre eux s'évapore au bout d'un certain temps, et l'Office français de l'intégration de l'immigration calcul des taux d'évaporation au bout de 3 mois, combien de personnes qui ont été envoyées dans des centres d'accueil d'orientation ont disparu. Au 19e siècle, il y avait déjà exactement la même statistique. On appelait ça les réfugiés furtifs. C'était ceux qui disparaissaient comme ça, qui filaient à l'anglaise, parce qu'effectivement, à un certain moment, on a dit, écoutez, il ne faut pas les mettre à Rouen, il faut les mettre à Saint-Lô, à 40 ans, enfin, dans des petites villes normandes, pour reprendre l'exemple que j'ai commencé à suivre.
Et à Nanton, il y a des familles qui sont déjà parties, d'ailleurs. Voilà. Hein, et l'investissement des maires, l'investissement des élus, ils sont très déçus d'avoir fait tout cet effort pour rien. Donc, à nouveau, comment est-ce qu'on va faire pour que ces villes ne se ferment
pas ? Écoutez, une partie du mouvement des Gilets jaunes, c'est justement dû au fait que les services dans les petites villes et dans le monde rural ont considérablement reculé. L'État s'est un peu dessaisi de tout ça.
Ils font les mêmes constats que les réfugiés, le manque d'accès aux soins,
et
le manque
d'une certaine manière, oui, la vie sociale, le lien social, c'est pas simplement la citoyenneté, hein, comme on dit, le lien social, c'est aussi la densité des interactions avec une population suffisante et avec des services suffisamment diversifiés et pertinents.
Mais en zone rurale, il y a quand même plus de mètres carrés disponibles.
C'est vrai. Et les personnes ont des logements plus vastes qui peuvent accueillir aussi, à titre volontaire, plus de personnes, c'est vrai. C'est une tension, mais je vous dis, cette tension, elle est très ancienne. Hein. Ça fait 150 ans qu'elle déchire l'administration, qui hésite sans cesse entre les deux solutions, de la concentration ou de la dilution.
Donc c'est insoluble. Cette idée que les campagnes sont effectivement accueillantes, c'est très ancien et ça n'est pas une évidence qu'on s'intègre mieux à la campagne.
D'abord, si vous êtes un Syrien qui a toujours vécu en ville, je rappelle que la Syrie était quand même un pays très urbanisé. Hein, le grand axe nord-sud, c'est un alignement de villes et de villes remarquables. Se retrouver à Nanton, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais un des problèmes que France Terre d'Asile, par exemple, a rencontré, c'est effectivement comment véhiculer les personnes pour assurer leurs visites périodiques aux centres administratifs qui sont dans les capitales régionales. Il n'y a pas 36 guichets. Comment les conduire au grand hôpital le plus proche? Et on a vu des municipalités, c'est ce que m'ont raconté les dirigeants de France Terre d'Asile, où les habitants s'émouvaient de voir qu'il y avait un système de transport dont pouvaient bénéficier les réfugiés, alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas pour aller aux mêmes endroits et aller se rendre dans les grandes villes les plus proches pour bénéficier des mêmes services. Donc vous voyez, ça crée aussi des distorsions.
Il y a la concurrence du public fragile. Effectivement. Et alors, François Héran, vous nous dites et vous nous répétez qu'il n'y a pas d'invasion à craindre. Malgré tout, cette peur, elle existe quand on voit justement l'étranger, lui, il a droit à ça et pas moi. Et puis, ils vont être de plus en plus nombreux à prendre notre place, nos emplois. Elle persiste malgré vos explications. Vous l'expliquez comment ?
Pourquoi n'écoute-t-on pas davantage le sociologue ou le démographe qui essaie de rétablir un petit peu les vraies proportions ? Ça, c'est un grand problème. Je crois qu'il y a peut-être d'abord, il y a une absence de pédagogie là-dessus. Je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu les responsables politiques expliquer exactement quelle est la véritable position de la France dans capacité à accueillir des migrants comparés aux pays européens. Et c'est une des tâches du démographe de mener des comparaisons internationales solides et sérieuses. Or, dans cette histoire, nous passons notre temps à nous célébrer nous-mêmes, à nous regarder nous-mêmes sans faire aucune comparaison sérieuse. Je crois que, comme par exemple, de publier des chiffres absolus sans regarder ce que ça représente par rapport à la population du pays. Mais c'est vrai qu'il faut tout petit minimum de culture statistique. Il faut aussi, je pense, compenser un certain nombre de récits qui sont systématiquement négatifs par des récits positifs. Et c'est ce qui a été fait dans le reportage, où on a, je pense, un équilibre tout à fait pertinent des deux approches. C'était pas un portrait rose, c'était pas la vie en noir, c'est quelque chose d'équilibré. Tout cela réclame des efforts, de l'anticipation, de l'organisation. Et je pense que pour l'instant, la France ne peut pas en rester à des programmes ad hoc, à des programmes uniques, ponctuels. Il faut qu'elle s'organise de façon beaucoup plus permanente pour faire face à l'imprévu.
Et à ses responsabilités. Merci beaucoup François Errant. Réfugié du Niger à la Dordogne, le grand reportage de cette semaine était signé Catherine Gigliardi. Réalisation Annie Bro avec Valentin Bobinet à la technique. Vous pouvez bien sûr, comme chaque semaine, réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.